à Rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce 27 janvier. C'est la fête de Sainte Angèle Mérici, la fondatrice des Ursulines, dont je vous parlerai sans doute l'an prochain. J'ai laissé la place aujourd'hui à un sujet important, qui revient un peu à des questions que j'ai déjà traitées grâce au magnifique livre de l'abbé Pierre Descouvemont, Les difficultés de la foi catholique. Le sujet, c'est la foi chrétienne. Change-t-elle notre regard sur les autres? Est-ce que vraiment les chrétiens ont un autre regard sur les autres? Ou s'ils ont exactement le même genre de bienveillance, de charité naturelle, quoi, à l'égard des autres, comme bien des incroyants? Parce que je connais bien des incroyants, des amis, n'est-ce pas, qui sont pleins de délicatesse envers les autres, et je ne voudrais pas les blesser. Et je fais cette émission en pensant à eux, mais en pensant aussi à tous les catholiques qui se posent des questions à ce sujet. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Si je connais des incroyants, même des amis, qui sont comme ça, pleins de délicatesse, je connais aussi, d'autre part, tout à fait à l'opposé, bien des chrétiens, même des catholiques, en quantité, n'est-ce pas, qui ont une grande dureté de cœur. Et ils sont souvent bien mesquins à l'égard de leurs frères, de leurs sœurs. On va commencer par moi, ça m'est déjà arrivé, puis ça m'arrive encore. Et alors, on peut se poser la question au fond de son cœur, est-ce que la foi en Jésus-Christ changeait quelque chose vraiment au fond de mon cœur? Est-ce qu'elle change quelque chose au fond du cœur des chrétiens? Est-ce que notre comportement de disciple de Jésus-Christ est transformé à l'égard de notre prochain? C'est une question qui est souvent posée. Puis ça doit être pris au sérieux, je crois. Il faut pas balayer ça du revers de la main en se disant, bien oui, nous, chrétiens, nous sommes bien meilleurs que les autres. Parce que, il faut bien admettre aussi que si la foi ne transforme pas profondément nos rapports avec les autres, elle n'aurait aucune influence sur ce qui constitue la plus grande partie de notre vie. Ce serait la preuve que notre foi ne serait que du vent. Nous ne serions, comme dit saint Paul, que des cymbales retentissantes. Alors on va voir successivement que les chrétiens n'ont pas le monopole de la charité fraternelle, ça c'est sûr. Mais que par contre, et j'ose le dire dès le départ, très simplement, en sachant que c'est Dieu qui agit au fond de nous, eh bien que la foi permet vraiment aux chrétiens convaincus, là, convaincus, de poser sur leurs frères un tout autre regard. Les chrétiens convaincus ont un autre regard. Et c'est sûr que les chrétiens n'ont pas le monopole de la charité fraternelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, les chrétiens n'ont aucune difficulté à le reconnaître pour deux raisons. L'une qui est tirée de ce grand mystère de la création, puis la seconde du grand mystère de la rédemption. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que Dieu a créé, oui, le mystère de la création, créé le cœur de tous les hommes à son image. Il a créé l'homme à son image, tous. Il est donc normal que tous les hommes, toutes les femmes, en avançant en âge, que tout ce monde découvre de mieux en mieux que leur cœur est fait pour aimer. Et comme il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, cette première histoire de l'Église, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est une parole qui ont dit être dans l'Évangile. Elle n'est pas dans les Évangiles. Elle n'a pas été conservée par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais c'est saint Paul qui la prononce dans un discours, n'est-ce pas, aux anciens d'Éphèse. Vous trouvez ça dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 35. « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » On entend ça souvent. Et c'est une parole d'Évangile qui est dans les Actes des Apôtres. Les chrétiens savent aussi, le Concile Vatican II nous l'a rappelé avec insistance, là. Ils savent que l'Esprit-Saint agit chez tous les hommes de bonne volonté pour transformer leur cœur de pierre en cœur de chair, capable de véritable amour. C'est le Concile Vatican II qui nous enseigne ça, puis de toute façon, c'est évident que l'Esprit Saint travaille au cœur de chacun, même les incroyants, même les athées. Car Dieu aime tous ses enfants. Et les chrétiens s'étonnent donc pas de rencontrer des incroyants qui sont animés d'une grande générosité pour leurs frères. Et les chrétiens aiment se laisser interpeller puis entraîner par leurs exemples. Mais les chrétiens n'hésitent pas non plus à présenter à tous les hommes les exigences de l'amour, ce grand amour qui a été formulé par l'apôtre Paul, hein, Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. L'amour est patient. L'amour supporte tout. Vous connaissez ce très beau texte. Ce sont des paroles qui sont tellement importantes et qui ont trouvé écho dans le cœur de beaucoup de gens sincères en dehors du christianisme que même, je l'ai vu à la télévision, il y a beaucoup de couples japonais, des shintoïstes, qui ne sont pas chrétiens du tout, qui demandent à des missionnaires chrétiens de célébrer leur mariage, pas, ils font pas un mariage avec une messe, un mariage chrétien, là, mais de célébrer leur mariage à la lumière de ces textes de Saint Paul. Parce que les missionnaires chrétiens, en particulier catholiques, connaissent bien ces textes-là. Puis pourtant, ils n'ont aucune envie, ces shintoïstes-là, de devenir des disciples de Jésus-Christ. Mais le texte du chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens sur l'amour est tellement beau. Alors quel est donc l'idéal que les chrétiens puis les non-chrétiens sont capables de partager quand ils parlent du véritable amour ou quand ils en dénoncent les caricatures? Parce que même ceux qui rejettent la foi chrétienne se disent souvent d'accord avec le primat de l'amour énoncé par le Nouveau Testament. Hein. C'est Albert Camus qui disait « Si j'avais à écrire un livre de morale, les 99 premières pages seraient blanches et sur la centième, j'écrirais une phrase. Et cette phrase, ce serait « Il n'y a qu'un seul devoir et c'est celui d'aimer. » C'est Albert Camus, très reconnu pour son agnosticisme, son incapacité de croire. Il faut pas oublier quand même à quel point l'Évangile a fini par imprégner la mentalité occidentale. Et par conséquent, des agnostiques, des incroyants que nous rencontrons le plus souvent sont imprégnés de ça. J'avais un ami qui me disait, j'ai quitté l'Église, je me sens un peu presbytérien. Oh, il dit, je me sens peut-être plutôt unitarien, c'est-à-dire négateur de la Trinité. Mais il dit, je me sens vraiment, au fond de moi-même, chrétien. Ça ne s'enlève pas comme ça, me disait-il. Il est devenu agnostique finalement, puis il disait la même chose. La législation des pays qu'on connaît est établi de plus en plus sur la conduite du bon samaritain. Vous savez, dans l'Évangile, le bon samaritain qui porte secours, mais ça devient obligatoire devant la loi. On dit que celui qui ne vient pas en aide à un blessé qu'il rencontre en chemin peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Alors, le véritable amour, il se réjouit de l'existence d'autrui. C'est ça qui fait que le chrétien se réjouit de l'existence d'un autre, même des impotents, des infirmes. Le premier réflexe d'un cœur d'enfant, est-ce que c'est pas d'accueillir l'affection dont il se sent entouré? Il s'exprime, n'est-ce pas, dans le sourire que le bébé adresse à sa mère lorsqu'il commence à la reconnaître. Et puis cette part de réceptivité, là, d'accueil, se retrouve dans tout amour. Hein? Vous souriez à des gens, ils vous sourient en retour. Et aimer, ce n'est pas seulement, ni même d'abord, donner. C'est aussi accepter puis apprécier la sympathie, l'amitié ou la tendresse de l'autre. On le voit dans l'amour conjugal. Est-ce que ça peut exister dans un cœur qui ne sait pas se laisser aimer? Qui ne se croit jamais aimable? Ben non. Et le véritable amour, il admire ce qu'il fait de bien. Les éducateurs savent bien que les enfants ont un immense besoin d'être admirés puis félicités. Pour prendre conscience là, en eux-mêmes, puis développer leur talent. Je me souviens quand mon fils faisait des sottises, je lui rappelais ses qualités. Et ça le faisait sourire finalement, et ça le pacifiait. c'est le mot éduquer qui veut dire tout ça au fond. D'ailleurs, aider un jeune à exprimer le meilleur de lui-même, c'est la méthode qui était chère à Socrate. L'art d'accoucher les esprits, l'art d'enseigner en interrogeant, c'est ça, éduquer. C'est questionner le cœur de celui qu'on veut faire grandir. Parce que le véritable amour accepte l'autre tel qu'il est, mais cherche à ce qu'il se transforme de lui-même. Accepter les autres tels qu'ils sont, c'est assez facile lorsqu'il s'agit de personnes qui nous sont chères, mais cela devient beaucoup plus problématique vis-à-vis de personnes qui sont pas tellement sympathiques et qu'on doit, là, sans les avoir choisis, rencontrer plus ou moins tous les jours. Il y a un beau poème, d'ailleurs, du prophète Khalil Gibran, qui rappelle que le véritable amour, pour qu'il ne dégénère pas en amour fusionnel, hein, le véritable amour conjugal doit toujours veiller à respecter l'autre, l'altérité de son conjoint. Il dit, aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave, qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes. Et puis, il dit, chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais demeurez chacun seul, de même que les cordes d'un luth sont seules, cependant qu'elles vibrent de la même harmonie. En somme, il essaie de faire comprendre que l'amour ne doit pas rendre dans le mariage les deux personnes identiques. Puis les parents doivent accepter aussi que leurs enfants ne partagent pas toujours leur point de vue, hein. Qu'il y ait un dialogue, c'est très important, on le dit de plus en plus dans les foyers. Il ne faut pas que les jeunes puissent dire que leur conversation avec leur père se résume à « Moi, quand je cause avec mon père, je dois me taire. » Évidemment, ça ne doit pas être ça. Parce que le véritable amour ne met pas d'étiquette sur l'autre. Celui qui aime son prochain en vérité, il catalogue pas à partir d'un détail vestimentaire là, puis d'une expression de vocabulaire. Le véritable amour pose chaque matin sur autrui un regard neuf. Hein. C'est Bernard Shaw qui disait « L'homme le plus intelligent que je connaisse, c'est mon tailleur. Chaque fois que je lui passe une nouvelle commande, il reprend mes mesures. » Ben oui. Et de la guerre, le véritable amour partage. L'amour véritable, il accepte de partager avec l'autre une partie de son temps, puis de ses ressources, ou de son bien-être matériel. Sans attendre que l'autre quémande, là, il est encore meilleur de savoir lui offrir ce dont il a besoin. Vous connaissez tous l'abbé Pierre, hein, qui a fondé Emmaüs. Emmaüs est né le jour où l'abbé Pierre, tout en refusant à un ancien prisonnier qui était suicidaire, l'aide qu'il demandait, il lui a demandé un service. Et cet ancien prisonnier, ce criminel, en rendant service, a reporté son suicide au lendemain. Puis a rendu service le lendemain, puis a reporté son suicide à plus tard. Il a finalement oublié de se suicider. Parce qu'il rendait service, il grandissait, il était éduqué par l'abbé Pierre, finalement. Et d'où venait ça? Du respect de l'autre, d'un amour véritable qui partage. Et nous verrons tout à l'heure que l'amour véritable pardonne, et puis qu'il s'efface, et puis qu'il donne sa vie. À tout à l'heure. Je vous disais que le véritable amour pardonne. C'est une chose qui n'existe pas. Pas souvent ça en dehors du christianisme. Mais c'est vrai qu'il manque pas d'incroyants qui sont capables de comprendre que le véritable amour va jusque-là. Tu m'as terriblement fait souffrir par ta conduite, tu m'as humilié, tu m'as blessé, mais je t'en veux plus. Et puis-tu enfin comprendre que je t'aime? Des incroyants posent ce geste. Mais le véritable pardon n'écrase pas celui qui le reçoit. Hein. Il y a une façon merveilleuse de pardonner qui laisse entendre « Si j'avais été à ta place, j'aurais peut-être fait pire encore. » Il y a les livres du père Montbourquette qui expliquent assez bien ce que c'est que le vrai pardon. et la difficulté aussi de pardonner. Parce que le pardon devient psychologiquement impossible là où il n'y a pas l'espoir d'une réconciliation dans ce monde ou même dans l'autre. C'est en ce sens que certaines formes de pardon supposent la foi. La foi, oui. L'espérance. La foi en un Dieu pour qui rien n'est impossible. Alors ça nous permet de pardonner. Puis l'espérance aussi que l'autre pourra un jour être retourné, converti par la grâce toute puissance de ce Dieu. On met sa confiance en Dieu. Souvent on est très déçu parce qu'on attend. Puis ça ne vient pas. Parce que la personne est vraiment prise en elle-même pour des raisons qu'on ne peut pas juger. On ne peut pas juger si l'autre. On ne connaît pas le drame. On ne sait pas. Si j'avais été à ta place, j'aurais peut-être fait pire encore. Le véritable amour s'efface, hein, l'amour authentique. Il s'éclipse pour que l'autre s'épanouisse. C'est ce que font les parents qui laissent un enfant partir au loin là, pour fonder un foyer. Ou même, dans ce 20e siècle, les parents qui voient leurs enfants qui partent pour un autre continent. Je me souviens, en Israël, de parler à des Palestiniens catholiques désespérés de voir tous leurs enfants partir. J'avais vu ça à Bethléem et à Nazareth. Tous leurs enfants établis en Amérique du Sud, aux États-Unis ou ici à Montréal. C'est ce que font aussi les éducateurs. Hein? Rappelez-vous nos éducateurs qui se sont rendus compte à un moment donné qu'on n'avait plus besoin de leur aide et on a même oublié souvent leur nom. On a préféré, évidemment, puis les événements ont fait qu'on nous sommes allés vers d'autres. Et les éducateurs se sont effacés dans leur amour. Pensons aux frères enseignants, aux religieux qui nous ont formés et à tous les éducateurs laïcs. C'est une tâche difficile, souvent. Faut renouveler toujours l'amour qu'ils ont pour d'autres qui se présentent et leur amour s'efface. Le véritable amour, il donne sa vie. Soit que le véritable amour donne sa vie au jour le jour, dans un devoir d'État, là, dont je vous ai parlé en vous parlant de Saint-François de Sales la semaine dernière, un devoir d'État qui est souvent monotone en apparence, mais qui est plein de richesses. Et soit qu'on donne aussi sa vie dans une mort héroïque. Hein, on peut penser à tous les résistants durant la guerre en France et en Europe là, qui ont résisté. Durant la guerre 39-45, ils ont refusé, malgré les tortures auxquelles ils étaient souvent soumis, de livrer le nom de leurs camarades. Et on voit ça même dans des films à la télévision. Il ne manque pas d'athées qui ont été capables de cet héroïsme pendant la guerre. Non, il ne manque pas d'athées qui ont eu ce courage incroyable de ne jamais révéler le nom de leurs camarades et qui ont été torturés et exécutés. Mais il y a les caricatures de l'amour aussi. Nos frères incroyants dénoncent comme nous les façons de s'occuper d'autrui qui méritent pas vraiment le nom d'amour. Il y a l'amour intéressé. Puis il y a la pseudo-tolérance là, de ceux qui sont peureux puis lâches et qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent vraiment des vraies valeurs et qui laissent la société se désagréger, comme on le voit actuellement. L'amour intéressé. Il peut arriver que j'aille vers autrui tout simplement par pur intérêt personnel pour me faire des relations utiles. On voit ça souvent. Et l'Évangile stigmatise très, très vigoureusement ce genre de motivation. Hein? C'est dans Saint-Luc, au chapitre 14. « Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour. » Et qu'on ne te rende l'appareil, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, invite des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et Jésus continue en disant, heureux seras-tu, alors, de ce qu'ils n'ont pas de quoi te le rendre, car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. C'est exigeant, hein? La façon de recevoir préconisée par Jésus. Mais alors, on pourra dire que le chrétien est encore très intéressé lorsqu'il invite des pauvres à sa table, parce qu'il le fait dans l'espérance d'obtenir une meilleure place au paradis. Et c'est pourquoi Fénelon, vous savez, le grand prédicateur français, là, il y a quelques siècles, je vous en parlerai un jour de Fénelon, le quiétisme et tout ça. C'est pourquoi Fénelon soutenait que l'âme parvenue au pur amour ne pensait plus du tout à la récompense du ciel lorsqu'elle aimait son Dieu et son prochain. Et c'est vrai, ça. L'âme parvenue au pur amour de Dieu, ou du prochain, ne pensait plus du tout à la récompense du ciel lorsqu'elle aimait son Dieu et son prochain. Et de fait, un Vincent de Paul, ou même de nos jours, là, vous connaissez Raoul Follereau, c'est ce laïc qui a tant combattu pour supprimer la lèpre. Mais Saint Vincent de Paul, Raoul Follereau, tous deux avaient un cœur tellement brûlant de charité qu'ils n'avaient guère besoin de penser au jugement dernier pour prendre en charge des prisonniers, des malades, les lépreux, etc. C'est-à-dire que le désir du ciel ne doit pas jouer aucun rôle dans la conduite des saints. Je crois que ça joue un peu. Le désir de voir Dieu, d'être avec Dieu pour l'éternité. C'est Bossuet qui avait raison, d'ailleurs. Je vais vous en parler aussi de Bossuet. Je prépare une émission sur lui, là. Mais Bossuet avait raison de le rappeler à Fénelon. Ils étaient contemporains. Mais la seule récompense céleste que les saints ambitionnent est celle d'être totalement immergés dans cet océan de la tendresse de Dieu, eux et tous leurs frères. C'est Jean de la Croix qui disait « L'amour ne se paie que par l'amour », avec un grand A. Le seul trésor que j'attende en échange de l'amour qui m'anime aujourd'hui, c'est un amour encore plus grand pour demain et toujours un comme c'est vrai. C'est ça, notre attente du paradis. Il peut également arriver que j'aille vers les autres pour me désennuyer ou pour échapper à une solitude que je trouve insupportable. C'est tout à fait normal d'aimer les rencontrer. Il vaut mieux avoir le contact facile que de vivre comme un ours. Quelqu'un qui m'a invité à dîner au restaurant hier me faisait cette remarque d'ailleurs. Mais nous sentons tous le danger de ne considérer les autres que comme les auditeurs de nos problèmes, puis les colporteurs de nos propres petites histoires. Il suffit pas de se réunir pour être vraiment unis, hein? De même, l'intérêt que nous prêtons à l'actualité n'est pas toujours très pur. Pour combien de téléspectateurs, le journal télévisé n'est qu'une distraction. Les nouvelles atteignent leur esprit, vaille que vaille, là, mais ça retentit pas du tout dans leur cœur, hein? Mais par contre, je connais une dame de mes amis qui écoute souvent les nouvelles pour savoir où il y a eu un incendie. Pourquoi? Pour aller porter secours. Elle est touchée au cœur. Puis il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, la pseudo-tolérance des peureux puis des lâches. Il peut arriver que mon indulgence à l'égard d'autrui là, ne soit que l'expression de mon vide intérieur ou de ma peur. Alors on se monte indulgent. Mais au fond, si j'accepte facilement les idées d'autrui, c'est peut-être tout simplement parce que j'ai aucune idée personnelle à faire valoir et que je n'ai pas le courage de manifester ou de défendre les miennes. C'est ce qui nous arrive à nous chrétiens dans cette société devant les problèmes de l'avortement, devant les problèmes de l'euthanasie, devant tant de problèmes d'injustice sociale, de corruption. Parce qu'une vraie correction, à la fois paternelle ou fraternelle, ça peut être une forme éminente de charité, c'est de la charité, c'est de l'amour. Hein? Il y a des moments où je dois arrondir les angles, bon, ça c'est la politesse. Il y a des moments où je pense que nous devons avoir une conduite plus tranchante, et ça c'est la fermeté. Mais c'est délicat. Il faut toujours que ce soit fait en se posant la question. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Qu'est-ce que Jésus ferait et dirait à ma place? Et ça se fait par la lecture quotidienne de l'Évangile, par le contact constant avec Jésus, et je crois aussi par la communion, la réception de l'Eucharistie. C'est très important. Aujourd'hui, il est question du regard chrétien sur autrui. Et vous savez, il y a un texte très, très ancien. L'Épître à Dionysiète, c'est un texte anonyme du 2e siècle. C'est pas d'aujourd'hui, dans les années 100. Qu'on pourrait intituler « Les chrétiens sont dans le monde, mais ne sont pas du monde ». Parce que ce texte exprime le paradoxe du témoignage donné par les chrétiens qui sont à la fois semblables et différents. Voici ce texte, qui date, je vous le rappelle, des années 100. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture, la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Les chrétiens résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. Oh, ils se marient comme tout le monde. Ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Ils aiment tous les hommes et tous les persécutent. On les méconnaît, on les condamne, on les tue, et par là, ils gagnent la vie. Ils sont pauvres et ils enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout et surabondent en toutes choses. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Châtiés, ils sont dans la joie, comme s'ils naissaient à la vie. Évidemment, il est question des chrétiens convaincus, des vrais chrétiens. Alors, que la foi chrétienne change vraiment notre regard sur les autres, c'est que le regard chrétien sur autrui, s'il n'est pas nécessaire d'avoir la foi pour exercer vis-à-vis de son prochain une authentique charité fraternelle, il est également vrai qu'en découvrant la tendresse infinie de Dieu pour lui, bien le chrétien a un regard qui est différent sur son entourage, le regard d'un être qui est pleinement réconcilié avec lui-même du fait qu'il se sait aimé tel qu'il est par un Père infiniment bon, hein? Dieu qui aime tous ceux qu'il a créés par amour, un Père infiniment bon. Et d'autre part, les hommes ne m'apparaissent vraiment comme frères qu'à partir du moment où j'ai été convaincu qu'ils sont comme moi fils du même Père. C'est comme ça qu'on peut aimer d'un amour paternel total, un être complètement différent de nous, qui n'a pas d'instruction, qui ne sait pas parler, qui n'a pas de manière, qui est grossier, mais dont le cœur est pur et bon. On le sent, on le voit. On peut analyser ce nouveau regard que la foi me permet de poser sur les hommes. Le regard du chrétien, c'est un regard eucharistique. Qu'est-ce que c'est ça, un regard eucharistique? Je m'explique. J'accueille les autres avec un sentiment très spécial d'action de grâce et d'eucharistie. Car eucharistie, c'est ça que ça veut dire, action de grâce. Et les époux chrétiens ne prétendent pas s'aimer davantage que des époux et croyants, mais ils se reçoivent l'un l'autre avec un infini respect. Et ils vont dire « Merci Seigneur, merci. Merci pour ce trésor que tu ne cesses de créer et de me donner. » Et merci pour l'amour que tu mets dans son cœur et dans le mien, et qui est un écho de l'admiration que tu as pour nous deux. Savez-vous que moi je le fais aussi, vous allez rire peut-être, mais je le fais avec mon chat. Souvent je tiens ce petit animal dans mes bras et je me dis, Seigneur, je te rends grâce. C'est un petit trésor. Tu as créé ces petites bêtes pour nous accompagner. Je dis ça pour tous les gens qui sont seuls et qui ont un petit animal. Rendons grâce à Dieu qui a créé ces petits animaux. Et pourquoi pas? Car chaque personne, chaque petit animal aussi, est un cadeau de Dieu. Tout est don de Dieu. Hein? C'est Jésus qui disait, « Père, ce que tu m'as donné, donné, c'est un don. » Les autres sont des cadeaux que le Père a enveloppés pour nous les envoyer. Certains sont magnifiquement enveloppés. Ils sont très attrayants, dès le premier abord. Mais d'autres cadeaux sont enveloppés de papier très ordinaire. Des êtres très ordinaires. D'autres ont été malmenés par la poste, on pourrait dire. Il arrive parfois qu'il y ait une distribution spéciale, et certains sont des cadeaux dont l'emballage laisse à désirer. D'autres dont l'emballage est bien fait, mais l'emballage n'est pas le cadeau. Hein. C'est si facile de faire erreur. Alors je suis une personne, et donc moi aussi je suis un cadeau, et un cadeau pour moi-même d'abord. Le Père m'a donné à moi-même. Ai-je déjà regardé à l'intérieur de l'emballage? Ai-je peur de le faire? Peut-être n'ai-je jamais accepté le cadeau que je suis. Et quand on sait, quand on se sait cadeau de Dieu, c'est là que commence l'humilité, on peut dire. C'est Louise Brissette qui a écrit ce très beau livre « Des cadeaux mal emballés ». C'est chez Novalis, publié chez Novalis. « Des cadeaux mal emballés ». Quand elle parle de ses 25 enfants qu'elle a adoptés, très beau livre que je vous recommande. Le regard du chrétien sur autrui, c'est un regard sans envie. Je ne suis plus jaloux de ceux et celles qui réussissent mieux que moi dans leurs activités. Ce qui importe, en effet, ce n'est ni la valeur de leur diplôme ou de leur salaire, ni l'éclat de leur succès, ni l'étendue de leur influence. Ce qui compte, c'est ce qui ne se compte pas. C'est la qualité d'amour que je fais passer dans ma vie à travers des activités fort banales, peut-être, comme l'a bien expliqué Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Et la qualité de cet amour, Dieu seul la connaît. Cette certitude permet de ne pas se laisser envahir par l'envie qui contamine si souvent les relations humaines. Et alors, on devient beaucoup plus plein d'amour devant les petits gestes, les petites choses. Je me souviens de mon petit-fils qui, dans le métro, prend plaisir à ramasser les papiers et à les jeter dans les poubelles. J'espère qu'il ne fait pas perdre leur emploi à ceux qui le font. Le regard du chrétien sur autrui, c'est un regard indulgent aussi. Je ne suis plus tenté de mépriser ceux et celles dont les défauts me heurtent profondément. Et quand j'ai découvert avec quelle patience le Seigneur supporte mes propres manques et mes retards, je deviens beaucoup plus indulgent à l'égard des autres. Ça aide. Quand je dis « je parle pour vous tous qui m'écoutez, qui êtes chrétiens », je devrais peut-être dire « on » et exclure la personne qui parle. Et à la question de savoir pourquoi si peu de chrétiens vivent vraiment l'amour pour leurs frères, c'est André Sèvres, cet auteur spirituel, ce prêtre merveilleux, qui répond « j'ai peut-être une explication. Et sur ma route, je n'ai pas tellement fréquenté de chrétiens inébranlablement persuadés que Dieu les aime avec tendresse. La plupart n'arrivent pas à vivre dans cette certitude. Alors, eux-mêmes, pour Dieu et pour leurs frères, n'ont guère de tendresse. Les deux choses se tiennent, dit André Sèvres. Je le vois bien. Plus on se sent aimé par Dieu, plus on a envie d'être bon. C'est ce qui règne dans le regard de Jean Vanier quand on le voit à la télévision. Plus on se sent aimé par Dieu, plus on a envie d'être bon. Il y a aussi que le regard du chrétien sur autrui, c'est un regard éclairé par le mystère de la très sainte Trinité. Ce mystère est le modèle qui inspire tous nos efforts de vie communautaire. Je m'explique. Les trois personnes divines, on en parle si peu des trois personnes divines, pourtant on fait toujours son signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. En fait, on fait tout au nom de cette Trinité, à laquelle on ne pense pas suffisamment, je trouve. Et les trois personnes divines réalisent le rêve de toute communauté humaine, familiale ou politique. C'est l'unité dans la diversité. Les trois personnes ne font qu'un, tout en restant plusieurs. Et l'utopie chez l'homme, c'est une réalité chez Dieu. L'unité des personnes divines est telle qu'elles n'ont toutes les trois qu'une seule intelligence, une seule volonté, une seule activité. Rien d'étonnant si l'on trouve dans le cœur de l'homme le désir de construire des communautés où soit sauvegardée à la fois la personnalité de chacun puis l'unité entre tous. Et tous les hommes ont rêvé de ça. Tous les hommes, en fait, tous les grands penseurs, tous les gens sincères et honnêtes. Nous sommes créés à l'image de la Sainte Trinité. Nous sommes d'ailleurs pleinement heureux qu'en accueillant dans notre cœur toute la richesse de cette vie trinitaire, or nous ne devons donc pas être surpris de découvrir en nous une part de solitude qu'aucune intimité humaine ne peut combler, pas même l'amour le plus fort entre deux êtres. C'est Roger Schütz, le frère Roger Schütz, prieur de Thésée, qui a déclaré ça à l'ouverture d'un concile des jeunes. Nous ne devons pas être surpris de découvrir en nous une part de solitude qu'aucune intimité humaine ne peut combler, pas même l'amour le plus fort entre deux êtres. Et cette solitude, au fond du très fond de notre être, ne peut être comblée que par la très sainte Trinité. Beaucoup d'hommes et de femmes ne découvrent que sur le tard la raison profonde de leurs grandes satisfactions conjugales ou même professionnelles, ils sont pas heureux dans leur mariage, pas heureux dans leur travail. Ils se sont trop longtemps imaginés que leur conjoint ou leur métier les comblerait totalement. Or, Dieu seul peut combler le cœur de l'homme. Dieu seul peut combler le cœur des hommes et des femmes. Et quelle joie de le découvrir! Quelle joie de consacrer du temps, se laisser aimer et envahir par ce Dieu d'amour qui est sans cesse présent au fond de notre cœur. Alors, on ne reproche plus à notre conjoint, à nos collègues de travail, de ne pas nous accorder ce que Dieu seul peut nous donner. Une tendresse infinie, une présence de tous les instants. C'est Dieu seul qui peut nous accorder ça. Et le regard du chrétien sur autrui, c'est un regard illuminé par la croix. Ne jamais oublier la croix. Si je contemple longuement le Christ en croix, c'est pour ça que nous avons des crucifix. Je ne suis pas accablé par les échecs que je connais dans mes rencontres avec autrui. Jésus lui-même a été terriblement déçu par ses camarades de Nazareth, les habitants de son village, ou ses disciples. On voit ça dans Marc, chapitre 6, 8, 9, 10, 14. Mais il nous a appris à ne pas nous culpabiliser de tels échecs. Il nous a même révélé que nous pouvions les transformer en occasion de sauver le monde, en conservant au fond du cœur la certitude de rester les enfants bien-aimés du Père, au sein de ses épreuves. Nous sauvons ceux-là même qui nous font mal en refusant notre amour et notre message. Et lorsque des parents ou des éducateurs chrétiens souffrent des crises dans lesquelles sont plongés leurs enfants, ils doivent penser qu'au jour du jugement, les enfants terribles se lèveront à la face de toute la cour céleste et diront en les désignant du doigt, c'est par les blessures que nous leur avons infligées que nous avons été guéris. On trouve ça dans Isaïe, chapitre 53. C'est par les blessures que nous leur avons infligées que nous avons été guéris. Mais il arrive aussi que des enfants sauvent leurs parents en supportant leurs défauts. Et je sais par ailleurs que je contribue par mes actes d'amour à faire grandir le règne du Christ dans le monde. En rendant mes frères plus heureux, en leur souriant, en les aidant, je facilite normalement leur progrès dans la joie puis la charité. C'est ce que j'essaie de faire ici, durant ces émissions. Or, tout être humain qui ouvre son cœur au véritable amour s'ouvre au règne du Christ, même s'il ne sait pas. Et de toute façon, rien ne sera perdu des actes de générosité que j'aurai posés dans ma vie. Ils contribuent. Oui, tout acte de générosité contribue à rendre le royaume des cieux éternellement plus beau. Quelle source incomparable de dynamisme et de joie! Oui, quelle source de joie! Et le regard du chrétien sur autrui, c'est la certitude du paradis de retrouvailles éternelles au ciel. C'est un regard plein d'espérance. C'est cette certitude que nous avons. Ça permet de vivre avec sérénité malgré la douleur, l'épreuve d'un deuil ou d'un divorce. Dieu seul est capable de réunir définitivement les êtres séparés ici-bas par un accident de voiture ou la maladie ou une totale incompatibilité d'humeur. Il y a une espérance qui nous préserve du découragement lorsque nous nous heurtons à l'impossibilité de réaliser sur terre une parfaite entente entre les hommes. Un jour, la joie nous réunira pour toujours, oui. Sur la tombe de sa femme décédée des suites d'un cancer du sein. Joseph Pironnet, qui est devenu prêtre par la suite, avait écrit « Dieu ne l'a pas reprise, il l'a cachée dans son cœur pour qu'elle soit plus près d'une autre. » Pour terminer cette émission, je voudrais vous dire, toujours avec l'abbé Pierre Descouvement, dont je m'inspire de très très près dans son livre « Les difficultés de la foi catholique », le regard du chrétien sur autrui, c'est une rencontre du Christ. C'est Jésus lui-même que j'aime et que je sers quand je soigne un malade ou que je m'occupe d'un enfant. Je me souviens, dans mes moments de désespoir avec mon fils qui est décédé maintenant, j'étais trouvé de la charge, comme on dit, tellement lourde à porter, que souvent j'avais le goût d'abandonner. Et quand j'entrais dans ma chambre, il arrivait très souvent que, en prenant l'évangile qui est à côté sur ma table de chevet, il faut toujours laisser un évangile sur sa table de chevet, je lisais cette parole: tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est ce que Jésus va nous dire au dernier jour. C'est dans Matthieu 25, chapitre 25. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme, c'est ce que dit le Concile Vatican II. Cette petite phrase de l'Évangile, ça a profondément marqué la civilisation chrétienne. Moi, elle m'a marqué profondément. Elle a inspiré la création des hôtels Dieu, vous savez ça? Quand vous voyez l'hôtel Dieu, là, de Montréal, c'est cette phrase qui est sous le nom de hôtel Dieu. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, dit Dieu, c'est à moi que vous l'avez fait. Elle inspire cette phrase, la conduite de tous ceux qui veulent aller vers les pauvres, un bouquet de fleurs à la main, comme Armand Marquiset, le fondateur des Petits Frères des Pauvres. Il va sans doute que cette conviction de rencontrer Jésus en se donnant aux autres, ça n'empêche certainement pas les chrétiens d'aimer leurs frères pour eux-mêmes. Il m'arrivait de dire à mon fils: si tu savais que si j'avais pas la foi en Jésus-Christ, je sais pas où je serais aujourd'hui. Quand il me disait qu'il m'avait fait tellement de peine et de problèmes, je disais: je t'aime encore plus parce que Dieu me fait aimer, c'est formidable, je t'aime vraiment pour toi-même. Le Seigneur ne nous demande pas de faire abstraction de la personne de nos frères lorsque nous les aimons, mais d'être au contraire tellement convaincus de sa présence intime au cœur de tout homme que nous soyons heureux de l'y retrouver, de l'admirer en train de pétrir de ses mains cette personnalité unique au monde. Tout être est unique. Et bien mieux, nous pouvons collaborer à son œuvre en aidant ces personnes-là à vivre et à s'épanouir. Quelle merveilleuse collaboration Dieu nous propose en nous confiant ses frères à aimer comme ça. Le Seigneur ne nous demande pas de faire abstraction de la personne de nos frères lorsque nous les aimons, mais d'être au contraire tellement convaincus de sa présence intime au cœur de tout homme que nous soyons heureux de l'y retrouver et de l'admirer en train de pétrir de ses mains cette personnalité unique au monde. Que le regard du chrétien sur autrui, c'est une participation à l'amour du Christ. Et j'ai l'audace de croire que je participe à l'amour même du Christ pour mes frères. Lui seul peut réaliser en moi le commandement inouï qui nous a laissé le soir de la scène: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Heureusement que nous vieillissons, la vieillesse nous permet de plus en plus de vivre ces recommandations qui sont si difficiles. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Une admirable coïncidence entre la promulgation de ce commandement nouveau puis l'institution de l'Eucharistie. En nous donnant son corps, le Christ vient greffer en nous son propre cœur. C'est ça qu'on fait quand on va à l'Eucharistie. Vous n'y allez pas? Vous hésitez à y aller? Dites-vous bien qu'en nous donnant son corps, le Christ vient greffer en nous son propre cœur, afin que nous puissions aimer nos frères d'un amour vraiment divin. Thérèse de Lisieux, dont c'est le centenaire cette année de sa mort: que je l'aime ce commandement nouveau, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté, ô mon Jésus, est d'aimer en moi tous ceux que vous me commandez d'aimer. C'est dans l'histoire d'une âme. Mais je ne suis pas étonné d'avoir tant de peine à aimer. Lorsque je constate mes handicaps en ce domaine, je demande paisiblement au Seigneur de me guérir. Il est venu pour les malades. pour les pécheurs. Nous sommes heureux de rappeler en terminant ces quelques réflexions sur la façon dont le chrétien essaie de vivre au milieu de ses frères, le rapport très profond qui existe entre le repas eucharistique puis la charité fraternelle. Le vrai repas eucharistique, celui auquel on participe avec une pleine foi, en la présence réelle. Je vous ai déjà fait une émission sur la présence réelle, je crois que c'était le 6 septembre, je ne suis pas sûr. Toute la tradition chrétienne, c'est plus, a souligné ce lien. Saint Jean Chrysostome n'hésitait pas à dire devant la cour impériale de Byzance, ou aujourd'hui de Constantinople, d'Istanbul. « Veux-tu honorer le corps du Christ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. Ne l'honore pas ici avec des étoffes de soie pour le négliger dehors où il souffre du froid et de la nudité. Car celui qui a dit « Ceci est mon corps » est le même qui a dit « Vous m'avez vu affamé et vous ne m'avez pas nourri. » Quelle utilité à ce que la table du Christ soit chargée de coupes d'or quand il meurt de faim? Rassasie d'abord l'affamé et orne ensuite sa table. Il ne dit pas de ne pas l'orner. Orne ensuite sa table. C'est très bien d'avoir de belles coupes et de célébrer la messe dans la beauté. Mais heureusement, l'Église catholique s'occupe beaucoup des pauvres. La plupart des institutions à Montréal qui s'occupent vraiment des pauvres, ce sont des institutions catholiques. Il y en a des centaines et des centaines, le saviez-vous? Et c'est le même rappel que faisait en novembre 1980 Mgr Etchegaray. Le pain partagé, la communion, nous convertit en hommes de partage, car celui qui nous livre sa vie nous appelle à livrer notre propre vie pour nos frères. La messe, la célébration eucharistique, par la fraction d'un pain nécessaire à la vie, invite le chrétien à ne pas consentir à la condition des hommes privés de pain, de justice et de paix. Et la grâce eucharistique est un trésor qu'on possède en le partageant. Elle est de frappe trinitaire. Belle presse instaurée parmi les hommes, le régime de vie divine, fait d'amour et de don de soi, c'est ça la Trinité. Il va sans dire que les chrétiens sont loin, loin d'instituer toujours cette cohérence entre notre table eucharistique et nos trois repas quotidiens. C'est d'ailleurs pourquoi, au début de chacune de nos messes, nous reconnaissons devant Dieu et nos frères notre condition de pécheur, un aveu qui ne doit pas dégénérer, cependant, en résignation passive. Nous devons demander à Dieu de vraiment changer nos cœurs et de nous transformer, et de faire de nous des saints.